Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin donc aux États-Unis. Un moment important, hein, cette nuit, plus de deux semaines après l'élection, dans l'intérêt supérieur du pays, Donald Trump donne via un tweet il y a quelques heures son feu vert au processus de transition vers une administration Biden. Alors détail important, le président sortant pour l'heure se garde de reconnaître officiellement la victoire du démocrate. C'est pourtant indispensable pour le transfert des informations classées top secret. Alors l'équipe Biden, malgré tout, salue une étape importante. Elle a, dans le même temps, présenté les premiers noms du futur gouvernement. Bonjour Éric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors on s'arrête ce matin sur la nomination de la future secrétaire au Trésor. C'est une personnalité bien connue des milieux économiques. C'est l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, Janet Yellen.
Voilà, c'est un choix qui fait consensus, hein, Dimitri. Lors de ses différentes fonctions, elle a su séduire le Congrès, les dirigeants financiers internationaux, les milieux d'affaires, mais aussi l'aile la plus progressiste de la classe politique américaine. Janet Yellen, 74 ans, serait la première femme à ce poste de secrétaire d'État au Trésor. Au fil des années, elle a su faciliter une coordination étroite entre politique budgétaire et politique monétaire. Face à la pandémie, elle a régulièrement plaidé en faveur d'un effort budgétaire accru. Janet Yellen attache beaucoup d'importance au creusement des inégalités. Elle y voit une menace pour les valeurs et l'avenir des États-Unis. Cette position séduit évidemment les Américains. Son passage à la tête de la Réserve fédérale s'est traduit par une amélioration du marché d'emploi et des taux d'intérêt historiquement bas. Un bilan très positif qui va renforcer son crédit dans sa nouvelle fonction. Cependant, sa marge de manœuvre sera réduite si les démocrates ne parviennent pas à être majoritaires au Sénat. Tout se jouera début janvier dans l'État de Géorgie.
Oui, effectivement, il y a deux élections dites run-off, c'est-à-dire de second tour, hein, prévues en janvier en Géorgie. Les démocrates doivent emporter les deux sièges pour prendre le contrôle du Sénat, où les républicains ont actuellement 56 Le problème, c'est que la Géorgie n'a pas élu un sénateur démocrate depuis 1996. Merci Éric Mauban. En France, à présent, pas d'accord hier soir sur la question du télétravail. Patronat et syndicats ont suspendu les négociations assez tard dans la nuit. Cette discussion va reprendre ce matin. De l'avis des participants, il y a peu de chances de parvenir à un accord. Le MEDEF et la CPME, notamment, refusent que l'accord sur le télétravail soit contraignant. Eux préfèrent un guide des bonnes pratiques. Ils souhaitent aussi que le recours au télétravail demeure la seule décision de l'employeur et non des pouvoirs publics. On a aussi ce matin une image assez précise de l'état de l'activité en ce moment. Elle s'est fortement contractée en novembre selon le cabinet Markit. L'indice PMI du secteur privé recule en zone euro de ce mois-ci à 45,1. On est donc sous la barre des 50 qui marque la bascule entre contraction et expansion de l'activité. Cela dit, c'est très contrasté d'un pays à l'autre par exemple. En France, on recule plus que les autres avec un PMI à 39,9 contre 47,5 le mois dernier, quand l'Allemagne, elle, se replie de 55 à 52. L'Allemagne qui conserve donc un petit peu de croissance. Un chiffre aussi qui illustre bien la crise. Selon Bercy, 186 000 entreprises de moins de 50 salariés, 186 000 sur 225 000 éligibles ont demandé l'aide du Fonds de solidarité lors des trois premiers jours du reconfinement. La crise qui pousse aussi les grands groupes à tailler dans leurs effectifs. Selon la CGT, Total envisagerait un plan de 1400 à 1500 départs volontaires, ce qui pourrait entraîner 700 suppressions de postes chez Danone. Par ailleurs, ce sont 2000 emplois donc qui vont disparaître, dont 400 en France. Rien ne va plus chez le géant de l'eau et des yaourts, qui paye chèrement l'effondrement de l'alimentation hors domicile ces derniers mois. Le titre Danone a reculé de 30% depuis le début de l'année. En cause aussi la personnalité, Céline Cajoulis, de son PDG, Emmanuel Faber.
Emmanuel Faber, si fier d'avoir fait de Danone la première entreprise à mission du CAC 40, devenu célèbre en 2016 pour avoir prononcé à HEC un plaidoyer pour la justice sociale, attire depuis toutes les lumières un style et un leadership qui agacent les actionnaires. Car depuis le début de l'année, le cours a dévissé de 25%. Alors ils ont tiré sur la corde de rappel. Fini les convictions personnelles, priorité à la création de valeur. Danone va donc changer son organisation, qui ne sera plus par type de produit mais par pays, pour faire 1 milliard d'euros d'économies en 3 ans, supprimer jusqu'à 2000 postes, dont 400 en France, pour renouer au plus vite avec la croissance et la rentabilité. L'objectif, c'est de recoller au peloton de tête des géants mondiaux de l'agroalimentaire, moins pénalisés par la pandémie, quand Danone a vu ses ventes d'eau en bouteille s'effondrer avec la fermeture des restaurants. Seul Coca-Cola fait moins bien, reconnaît Emmanuel Faber. L'emploi qui reste une question sensible dans un groupe créé par Antoine Riboud sur un double projet économique et social.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
6h44, après Pfizer et Moderna, AstraZeneca a communiqué hier des résultats intermédiaires encourageants pour son candidat vaccin contre le Covid, efficacité moyenne de 70%. En fait, l'efficacité varie selon la posologie, 62% pour deux doses du vaccin avec un mois d'intervalle, mais 90% avec une demi-dose, puis une dose un mois plus tard. La réponse du système immunitaire serait donc meilleure avec une première dose plus petite. Gros avantage pour AstraZeneca, son vaccin repose sur une technologie bien connue. Il peut être stocké aussi à une température située entre 2 et 8 degrés Celsius pendant 30 jours. La production aussi est très simple. AstraZeneca serait en capacité de produire 3 milliards de doses l'an prochain. Et le laboratoire promet un tarif qui défie toute concurrence à prix coûtant entre 3 et 4 dollars la dose. En bref, hémorragie de clients pour EDF, selon une étude de la Commission de régulation de l'énergie parue hier. EDF perd environ 150 000 clients par mois au profit des 47 autres fournisseurs d'électricité. En cause, les tarifs réglementés qui sont de moins en moins attractifs vis-à-vis notamment des offres vertes. EDF compte encore 27 millions de clients en France, quand Engie est en forte croissance, à plus 19% depuis deux ans, avec aujourd'hui près de 5 millions de clients électricité. Et juste derrière Direct Energy de Total, 3,3 millions de clients et une progression en deux ans de 50% du parc d'abonnés. Et puis on a eu hier les chiffres du livret A pour octobre. Pour la première fois de l'année, on a enregistré une décollecte d'un milliard d'euros le mois dernier. Alors rien de surprenant, octobre traditionnellement, c'est le mois du paiement des impôts, notamment de la taxe foncière. Un milliard de décollecte, cela dit, cela reste très faible. Écoutez Maxime Chipoy, le président de Moneyvox, site spécialisé dans la finance personnelle.
C'est deux fois moins que l'année dernière. On reste quand même sur une année qui est tout à fait exceptionnelle, puisqu'avec le Covid, la plupart des Français, en tout cas ceux qui peuvent épargner, ont beaucoup plus épargné que d'habitude, puisqu'ils n'avaient pas les magasins ouverts pour dépenser leur argent comme ils le font d'habitude. Et donc les Français restent prudents, ils décollectent moins, ils dépensent moins qu'ils ne font d'habitude, parce qu'ils ont peur que des prélèvements obligatoires et les impôts augmentent.
Voilà pour le livret. Enfin, à noter que la Chine a envoyé cette nuit une fusée vers la Lune. Objectif de cette mission Chang'e 5, longue marche 5, donc ramener des échantillons lunaires rocheux avant peut-être une mission habitée chinoise. Ce serait historique. Les marchés pour finir, les marchés asiatiques justement en belle hausse ce matin après l'accord de Trump pour une transition du pouvoir avec Joe Biden. Tokyo progresse en ce moment de 1,5%. À Wall Street hier soir, le Dow Jones était en hausse de 1,12%. Le CAC, lui, a fini en légère baisse, moins 0,07%. À noter notamment d'ailleurs le titre LVMH stable lui aussi, mais qui en séance a atteint son record de capitalisation, 250 milliards d'euros de capitalisation pour LVMH, record absolu d'ailleurs pour...